Bonjour à toutes et à tous, installez-vous, c'est l'heure de votre thérapie pop. Chers amis, bienvenue à bord pour ce nouvel épisode de Thérapie Pop, l'émission qui décrypte pour vous la musique contemporaine des années 50 à demain. Nous sommes comme chaque semaine ravis de vous retrouver pour 26 minutes de culture musicale. Et pour mon plus grand plaisir, mais également pour le vôtre, c'est Gauthier qui nous prendra par la main aujourd'hui. Salut Gauthier.
Salut mon cher Théo, un Gauthier facétieux.
Oui,
eh oui,
exactement. Aujourd'hui, mon cher Gauthier, c'est jour de tube. Et quel plaisir pour nous de vous parler d'un tube internationalement reconnu comme l'un des plus grands morceaux de blues rock. Il a été pondu par un drôle de groupe au drôle de nom. Ils nous viennent directement du Texas. Ils ont les plus belles barbes du circuit. Leurs yeux sont constamment cachés derrière de grandes lunettes noires. Ils ont perdu leur bassiste en 2021 et les survivants continuent de tourner à 75 ans révolus. Ils ont vendu plus de 70 millions d'albums, j'ai bien entendu nommé... ZZ Top.
70 millions d'albums.
70 millions d'albums, monsieur.
Bah.
Ah, bah je vois que t'as bossé. On va s'intéresser à leur tube La Grange, sorti en 73 sur l'album Tres Hombres. Pourquoi La Grange? Eh bien, tout simplement, c'est un hommage à un haut lieu de la prostitution au Texas, dont la municipalité du même nom, située entre Austin et Houston. Nous vous souhaitons la bienvenue chez les Rednecks, les amis. Avant que Gauthier ne nous raconte tout ce qu'il sait sur ce tube, je vous propose de l'écouter afin de bien se remémorer ce dont on va vous parler tout au long de l'émission. On s'écoute La Grange de ZZ Top. Rumors spread around in that Texas town about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.
Yourself, man. And here is time. I'm on.
Vous êtes bien sur Radio Présence et vous écoutez Thérapie Pop. Aujourd'hui, c'est jour de tube avec le facétieux Gauthier. Alors, tu l'aimes ce morceau ?
Oh, Théo, je l'adore et je t'adore quand tu décides de me caler dans, l'agenda de notre émission une chronique sur une chanson unique dont tu te fous complètement et tu te fous complètement du groupe, mais t'as passé une soirée dans laquelle c'est sorti de ta playlist et tu t'es dit, tiens, si je la connais, si je la collais à chroniquer à mon cher Gauthier. Alors écoute, Théo, je suis un homme de défi, donc j'ai essayé. Je suis allé sur ma page iTunes de ZZ Top, et quand j'ai vu que Lagrange était sur le top 6 trois fois mentionné, je me suis dit déjà qu'on était sur un groupe hautement qualité.
Sur le best-of, il y a 6 versions.
Voilà, donc là déjà tu te dis que tu vas passer vraiment un chouette moment. Ça n'a pas raté, j'ai essayé d'écouter l'album dont c'est tiré. Je crois que je suis arrivé à la chanson numéro 4 et j'ai mangé mes AirPods. voilà, donc Théo, on va parler de Lagrange de ZZ Top parce que ça te fait plaisir. Non Théo, on va pas le faire, je déconne, c'est vraiment pas bien du tout. Et à la place, parce que je sais que tu aimes les tubes, eh ben je te propose de parler de Bittersweet Symphony de The Verve. Et paf!
Ah, je sens comme une odeur de mutinerie dans le studio, Gauthier. Et vu qu'on est que deux, ça vient pas de moi.
Bagarre.
Ça, mais phyto, hein, c'est un coup à scoltiner une saga sur Hermenion. Mais je suis bon joueur, va pour The Verve. De toute manière, je dois reconnaître que j'ai pas trop le choix, étant donné que c'est toi qui fais tout ici. Alors vas-y, puisque tu y tiens tant, parle-nous de The Verve.
Alors The Verve, Théo, c'est un groupe, figure-toi, de rock anglais formé à Wigan, dans le grand Manchester. Et quand on parle de groupes qui viennent de Manchester, on est forcément un tout petit peu heureux. C'est un groupe qui est formé dans les années 90 par le chanteur Richard Ashcroft, dont je rêvais de ressembler quand j'étais jeune et à qui je n'ai jamais ressemblé.
Dieu merci.
Il aurait fallu que je perde une vingtaine de kilos.
Et que tu te fasses écraser la tête par un 38 tonnes.
Non, arrête, mais... il a un côté un peu, je sais pas...
Oui, rugbyman sur le retour.
Non, oui, mais beaucoup trop maigre pour aller dans une mêlée.
Non, mais oui, non, ouais. Mais de poteau de rugbyman qui aurait pris trop de plaquages.
Oui, ou d'héroïne. par le guitariste aussi Nick McCabe, le bassiste Simon Jones et le batteur Peter Salisbury. Et ça aussi, c'est un beau nom anglais, Théo. On est quand même beaucoup mieux qu'au Texas. on peut dire que ces chers messieurs ont eu une petite carrière, quand même, mine de rien. Une discographie, alors pas énorme, A Storm in Heaven en 93, que à peu près personne ne connaît. Non. Another Town en 95, que pas grand monde ne connaît. Ensuite, Urban Hymns en 97, que absolument tout le monde connaît, et je vais vous en faire la démonstration pendant cette prescription. Et un quatrième album appelé Fourth, parce que pourquoi pas, en 2008, qui est absolument et totalement dispensable.
D'accord. Donc on fera pas une saga sur ça. T'as un petit extrait ou pas à nous donner ?
Ben, de ce qu'était The Verve avant d'être mondialement connu avec Urban Hymns, leur album, et bien évidemment The Bittersweet Symphony, avec la chanson Slide Away, parce que l'album de 95, notamment Another Soul, mérite quand même votre intérêt. Slide Away, Théo, à savoir The Verve avant The Verve.
Bon, c'est vrai qu'on fera pas une saga sur eux, hein, comme on le disait, d'autant plus que contrairement à nos barbus texans, ils sont loin des 70 millions d'albums vendus.
Oui, mais tu feras pas une saga sur ZZ Top, je te le promets.
Non, c'est vrai. On sait toutefois les apprécier à leur juste valeur, The Verve, et surtout celle d'un album assez collector. Raconte-nous ça, Gauthier.
C'est le fameux Urban Hymns qui sort donc en 97 et qui va être l'album, enfin, ou l'un des albums, pardon, les plus vendus de l'histoire du Royaume-Uni. Quand tu connais les groupes qui ont émergé au Royaume-Uni,
ouais, c'est clair. Tu te dis, surtout dans les années 90.
Surtout dans les années 90, mais même dans les années 60. Notamment parce que cet album, et on va en reparler, enchaîne les tubes comme des perles. Je pense qu'un jour, peut-être, on consacrera d'ailleurs par contre une émission consacrée entière
si
à Urban
Roots. On est en 97, donc tu l'as dit, et on assiste un puissant un petit peu au déclin de la Britpop. Mais voilà que ça profite à nos amis du jour.
Et oui, parce que The Verve va se glisser réellement dans un petit trou de souris. C'est l'album qui va vraiment sortir au bon moment pour eux. Il va y avoir une baisse de régime, en tout cas pour le public, des deux mastodontes de l'époque, que sont Blur, qui perd un peu ses fans avec son album éponyme, A Tort, qui est un album absolument extraordinaire. Tandis qu'Oasis, le deuxième mastodonte de la Britpop, comme tu le rappelais très justement Théo, lui nous cassait déjà les oreilles avec Beer Now. Notre cher Noël Gallagher avait découvert les violons, les instrus lourdes.
Ouais.
Et sinon, l'alternative, c'était Radiohead, mon cher Théo, qui sortait à l'époque OK Computer, mais ça avait quand même un petit effet, je renverse la table, donc qui n'était pas forcément le plus appréciable et le plus agréable. Faut dire que tu écoutes un peu plus facilement Bittersweet Symphony que Paranoid Android.
Ouais.
Mais bon, voilà, ils se sont glissés dans un trou de souris, et avec un style qui est vraiment à eux, en fait. C'est cette capacité de réunir des hymnes populaires tels que Oasis pouvait les faire à son époque, on va dire, de grâce, d'âge d'or.
Ouais.
Et le tout avec, par contre, et là en opposition à Oasis, des instrumentations, je vais y arriver, mon cher Théo, des instrus plus délicates, plus douces, plus acoustiques presque, plus unplugged.
Ouais.
Voilà.
Et bien qu'on connaisse tous le morceau Bittersweet Symphony, ou alors vous êtes vraiment passé à côté de quelque chose, mais vous pouvez.
Ouais, il y a un souci, c'est voilà. Que t'as pas vu la moitié des films des années 90, t'as pas vu les pubs des années 90, ça fait bien un souci, quoi.
Si jamais il y en avait, vous pourrez rattraper ça en fin d'émission. Le succès. Gauthier n'était pas forcément assuré pour cet album.
Non, parce qu'au moment où ils attaquent la composition de ce troisième album, le groupe est même plutôt à deux doigts de fondre les plombs. Comme beaucoup d'ailleurs de groupes qui vont souvent sortir de périodes assez sombres, un peu la quintessence de leur musique. Les relations sont notamment absolument exécrables entre Richard Ashcroft, le chanteur, et son guitariste Nick McCabe, au point même que Ashcroft réunira le bassiste Simon Jones et le batteur Pete Salisbury, définitivement l'un des noms les plus classes au monde, pour auditionner carrément un autre guitariste.
Ah ouais.
Finalement, Richard Ashcroft fera un peu machine arrière, à noter qu'il aura sa carrière perso juste après, en fait.
Un bon album, je me souviens d'un premier bon album
solo. Je sais pas s'il n'y en a pas deux ou trois.
Je me souviens du premier en tout cas.
Mais qui arrivera juste après Urban Hymns, en fait. La période de pause entre Urban Hymns 97 et Force 2008, c'est notamment la période un peu solo de Richard Ashcroft, qui fera même un featuring avec Chemical Brothers.
Oh.
Ouais, ça se vante pas. The Test, je crois, la chanson qui est vachement bien. Bon, à l'époque, en tout cas en 97, Richard Ashcroft se rend compte que c'est peut-être un peu tôt et qu'il a encore un peu besoin de la magie de la six cordes de notre cher McCabe. Donc, ils restent ensemble, bonne idée.
Alors. En effet, ça sentait le roussi, comme tu le dis, mais l'album est truffé de pépites, Gauthier.
Oui, on en retient principalement quatre. Bien évidemment, ce premier single que sera The Bittersweet Symphony, qui est encore une fois l'une des chansons les plus connues de la pop anglaise, mais aussi trois autres chefs-d'œuvre à peine un peu moins connus et pourtant peut-être encore plus beaux que les précédents. C'est Sonnet, The Drugs Don't Work, qui a l'une des lignes de guitare les plus belles au monde, et la chanson Lucky Man, dont je vous propose un extrait dès à présent, mon cher Théo, pour se rendre compte que The Verve, ce n'est pas que The Bittersweet Symphony.
But I'm a lucky man. happiness, something in my own place. I'm studio naked, smiling, I feel no disgrace with who I am. Happiness coming and going. I watch you look up and watch my feet are growing. I know just who I am. And how many corners do I have to turn? How many times do I have to run? All the love I have is in my mind. I hope you understand. I hope you understand.
Vous êtes bien sur Radio Présence et vous écoutez Thérapie Pop. Aujourd'hui, c'est jour de tube et contrairement à la demande générale, ce n'est pas de Lagrange de ZZ Top dont nous vous parlons aujourd'hui, mais bien de Bittersweet Symphony de The Verve.
Tu parles de toi en te qualifiant de général. c'est étonnant quand même.
Ouais. Non, j'ai eu des messages, Gauthier.
Par exemple, ton psy.
Les gens nous écrivent.
Des messages que tu reçois aussi, par exemple, ton psy.
Donc, on vous parle de Bittersweet Symphony, paru sur l'album diablement bien nommé Urban Hymns, sorti en 97. Alors Gauthier, comment ce groupe à la carrière plutôt confidentielle avant cet album a fait pour sortir un tube comme celui-ci ?
Eh ben mon bon gros Théo, qu'est-ce qu'on fait ? On pompe à plein de gens. Et d'abord, qu'est-ce qu'il faut pomper en premier ? Eh ben c'est une bonne mélodie. Je vais te faire écouter une chanson dont tu reconnaîtras assez rapidement la voix, c'est les Rolling Stones. Mm-hmm. Une chanson par contre que tu ne connais pas d'eux, je te la mets, on en reparle juste après.
C'est fascinant.
Ouais, tu reconnais ?
Ah, je reconnais, ouais.
Alors, donc, en fait, ce que vous avez entendu, c'est la version des Rolling Stones d'une chanson qui s'appelle The Last Time, alors qu'il n'avait pas été crédité aux Rolling Stones, mais au Andrew Oldham Orchestra. Alors, petite explication.
Je ne connais pas cela, moi.
Alors, Andrew Oldham était le manager, pardon, je vais y arriver, des Rolling Stones, et il utilisait le nom de Andrew Oldham Orchestra pour récupérer parfois des brides d'enregistrement de sessions.
Bandes à gauche, à droite.
Voilà. Alors, c'est amusant parce que c'est un repompage, hein, bien oui, évidemment, non, The Bittersweet Symphony. Mais The Last Time, la chanson que vous êtes en train d'entendre en fond, est elle-même un repompage, puisque le refrain de la chanson est parfaitement identique à une mélodie d'une autre chanson, This May Be The Last Time, il y a même The Last Time, les deux fois, une chanson de gospel traditionnelle enregistrée en 1954 par les Staple Singers. Mais on parle des Rolling Stones, mon cher Théo, donc bien évidemment avec la classe légendaire de notre cher Mick Jagger, il va repomper la chanson des Staple Singers, mais il va se la créditer à lui-même. Hein, ça s'est signé Jagger et Richards. Grande classe, cher Mick, grande classe.
Et justement, Gauthier, Mick Jagger et Keith Richards, on les aime beaucoup, mais il faut reconnaître que quand on parle pépette, ils deviennent d'autres personnes qu'on aime beaucoup moins. Et je crois que Richard Ashcroft partage notre sentiment.
Oui, parce que c'est pas terminé la grande classe selon Mick Jagger. En fait, non seulement il pique une chanson de mec et qu'il se crédite, mais quand The Bittersweet Symphony va sortir, les membres des Rolling Stones, à savoir Mick Jagger et Keith Richards, vont plus ou moins accepter l'existence d'un procès contre Richard Ashcroft et The Verve pour être crédités de la chanson de The Verve. Donc je rappelle, un mec a pompé une chanson en se créditant lui-même, quand sa chanson va être pompée, il va quand même maintenir son propre crédit plutôt que de faire ce qu'il a fait aux autres, c'est-à-dire de laisser le crédit à l'artiste suivant.
Propre.
Résultat des courses, Ashcroft touchera pas un euro pour The Bittersweet Symphony, c'est dommage quand t'as une chanson qui est un tube planétaire, il en aura cette réflexion, The Bittersweet Symphony est la meilleure chanson de Jagger et Richard des 20 dernières années, ce qui est pas complètement faux puisque à l'époque... les Rolling Stones, c'est quand même pas une machine à grand album. C'est encore plus ridicule quand tu sais que c'est le plus grand succès britannique des Rolling Stones, de Bittersweet Symphony, alors qu'ils ne la jouent pas depuis Brown Sugar en 1971.
Incroyable.
Voilà, donc grande classe Mick, bravo. Ouais.
et pourtant, aussi improbable que ça puisse paraître, les deux compères, donc Mick Jagger et Keith Richards, ont fait amende honorable en 2019.
Alors, en 2019, le Billboard considérait que la chanson Bittersweet Symphony à elle seule avait généré 5 millions de revenus de royalties. Bon, en 2018, Richard Ashcroft pique encore une gueulante en disant que quelqu'un m'a volé, je le cite, Dieu sait combien de millions en 97 et ils l'ont toujours. Petit clin d'œil à Jagger et Richard. En avril 2019, les deux accepteront de rendre les crédits à Richard Ashcroft. Alors je sais pas s'ils ont rendu les crédits depuis le début ou ils sont acceptés postérieurement à 2019 à créditer Richard Ashcroft. Le fait est que ça s'est pas trop mal terminé. Fin de la parenthèse Théo pour les années 60, on va dire.
Voilà, si on pouvait retourner en 97, parce que je les aime bien les Stones, mais on leur a déjà consacré une saga, faudrait pas qu'ils pointent le bout de leur nez dans toutes nos émissions, ils vont nous réclamer des droits à nous aussi.
Oui,
alors,
il n'hésitera pas, Mick.
Voilà, donc on retourne en 97, Gauthier.
Alors, qu'est-ce que tu fais pour faire un tube, Théo? Tu prends The Last Time, bien évidemment, tu échantillonnes ces quatre mesures que vous avez reconnues, tu la répètes, tu l'empiles en mettant des cordes, des guitares, des percussions, et la voix de Richard Ashcroft que tu démultiplies aussi, et puis pim pam pouf, t'as un tube quoi.
Et il y a une chose qui a contribué également au succès du morceau, Gauthier, je vous rappelle que nous sommes en 97, c'est le clip qui l'accompagne.
Oui, et là aussi mon cher Théo, tu refais un pompage. Alors précisons, le clip il est très connu, c'est Richard Ashcroft qui marche dans le très fréquenté Hoxton à Londres, inconscient des passants qui le percutent, etc., ouais. etc. Il sera nominé pour la vidéo de l'année, la meilleure vidéo de groupe et la meilleure vidéo alternative au MTV Music Award de 97, mais, et je te le disais Théo, ça aussi c'est un repompage ce clip, puisque vous irez écouter et vous irez regarder,
voir surtout,
ouais. voir bien évidemment, le clip de la chanson Unfinished Sympathy de Massive Attack, c'est rigoureusement le même clip, mais avec une dame. Voilà, donc tu Génial. Pompes la chanson, tu pompes le clip et t'as un tube.
Est-ce que le succès commercial est au rendez-vous, Gauthier? J'ai un semblant de réponse, mais...
Alors, ils seront étonnamment que numéro 2 des classements avec cette chanson, ils ne deviendront numéro 1 qu'avec The Drugs Don't Work, qui...
Ah, incroyable.
Ouais, mais qui est peut-être une chanson encore plus belle que...
Ouais,
que...
j'entends bien, ouais. mais moins... Enfin... Si tu veux qu'on on a moins retenu que... Voilà.
Il faudrait regarder qui était numéro 1. Il y a peut-être un truc de Blur ou d'Oasis qui était sorti à ce moment-là, ou de Radiohead.
Ou des Spice Girls.
Ou des Spice Girls.
Tu nous avais fait
très très mal en nous rappelant les ventes des Spice Girls la dernière fois.
Ouais.
En fait, ça sera le seul numéro 1 qu'ils auront jamais dans les charts anglais, ça sera justement pour The Drugs Don't Work quelques semaines ou quelques mois après.
Et comme souvent avec nos amis rockers, toute cette histoire finit un petit peu en eau de boudin, Gauthier.
Oui, alors Urban Hymns va être bien évidemment un immense succès porté par ces quatre singles absolument dévastateurs dans les charts. The Verve va faire des tournées en remplissant tous les lieux les plus mythiques, on va dire, des salles anglaises, donc ça n'a pas de souci. Mais notamment la querelle de paternité sur cette chanson et le fait que t'as des tubes mais tu touches pas tes ronds, et le fait aussi que le groupe allait déjà assez mal avant l'enregistrement de Urban Hymns vont conduire notamment Richard Ashcroft à la dépression et à une carrière solo. Donc le groupe ne survivra pas à cet album et à ces risques qui auront eu lieu juste après. Ils reviendront donc pour le quatrième album Fourth, qui était, là encore une fois je le répète, mais parfaitement dispensable. Par contre, bien évidemment, retourner sur Urban Hymns, qui est un album absolument majestueux.
Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Chers amis, cette émission touche à sa fin, on va se quitter.
Donc, on se l'écoute ou pas,
cette fameuse Bittersweet Symphony.
On se remet ZZ Top. Je peux te mettre la deuxième meilleure chanson de ZZ Top, c'est encore la grande.
Le Andrew Lugan Orchestra. Allez. Ça c'était fascinant d'ailleurs, ce morceau de Stones entre guillemets,
Stones,
que je connaissais pas du tout, c'est génial. Je vous rappelle, donc on s'écoute Bittersweet Symphony de The Verve. Je vous rappelle que cette émission est à retrouver sur le site de Radio Présence, mais également sur toutes les plateformes de podcast disponibles ainsi que chez les radios partenaires. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine et on traversera l'Atlantique pour retrouver une famille à succès, les Jackson. Enfin, si Gauthier décide pas de changer de programmation, on verra.
C'est fini. Je suis facétieux une fois par an.
D'accord. D'accord.
C'est fait.
Donc, on ira aux États-Unis. Une très belle semaine à vous, une très belle semaine à toi, Gauthier. À lundi.
Salut Théo.
Salut.
It's a bittersweet.